Bonjour et bienvenue sur mon podcast, je suis Christelle, j'accompagne les familles depuis 2018 et ici on se parle de parentalité depuis le projet bébé jusqu'à l'adolescence. Si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme favorite, mais aussi le partager à vos amis. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour notre épisode. Bonjour à toutes et à tous, cette semaine je suis très heureuse de vous partager un épisode avec Marion Kuerk comme invitée. Ensemble nous avons parlé des droits des enfants, de la façon dont les enfants sont perçus dans notre société, de parentalité dite bienveillante et de bien d'autres choses encore, puisque Marion travaille sur un ensemble de concepts nous aidant à transformer notre regard sur les enfants et sur l'enfance. Toutes les références abordées dans cet épisode ainsi que les liens vers le travail de Marion sont à retrouver dans les notes de podcast sur mon site christellecardeur.com, Christelle avec un K. Je vous souhaite une excellente écoute, c'est parti! Bonjour Marion, je suis super heureuse de t'accueillir sur le podcast.
Ben merci de m'inviter.
Merci pour ton temps, pour le temps qu'on va prendre ensemble. Marion, je pense que mes auditrices et mes auditeurs te connaissent déjà, mais je vais quand même faire une petite présentation pour les personnes qui te connaîtraient pas ou peut-être qui connaîtraient pas des éléments que je vais partager là. Donc, t'es spécialiste des droits de l'enfance, ça je pense que tout le monde le sait. T'es autrice du livre « Une enfance en or » avec un petit jeu de mots dedans, avec « or » comme l'or massif et le « nord », la direction, les pays du nord. Et tu as aussi fait un master des droits de l'enfant en Suède, du coup, qui est le pays dont tu nous parles beaucoup. Voilà, est-ce que j'oublie des choses importantes? Dis-moi...
Non, c'est bien, ouais.
Ça va. Je trouvais pas mal de préciser que tu as fait un master sur ce sujet, parce que ça montre que ce que tu partages ne vient pas de nulle part ou de simplement ta pensée, mais de réflexion à
Alors, j'en ai juste, mais c'est un détail, mais j'en ai fait deux, des masters.
Ok, d'accord, super intéressant.
J'ai aussi toute la partie sur la culture, alors les sciences de l'enfance, qui ramène justement le côté un peu plus... qui permet de rattacher en fait tout ça à la France, avec tous les impacts culturels, représentation de l'enfance, représentation de l'enfant, normes éducatives, etc., etc.
Super intéressant. Mais justement, on va avoir l'occasion de se parler pas mal de tout ça, puisque c'est un peu ce dont il s'agit. Avant qu'on démarre et qu'on entre un petit peu dans les petites questions que j'avais prévues, il se trouve que là, au moment où on enregistre, on est le 18 juillet, et si je retiens bien la date, le 1er juillet 1979, en Suède, je sais pas comment on dit, on abrogeait la loi sur l'interdiction des violences éducatives, donc c'était il y a 45 ans en Suède, et il se trouve qu'en France, il y a une loi, alors je sais pas si elle est similaire d'ailleurs, ou s'il y a des grosses différences dans cette loi, je te vois faire une tête genre...
Elle est un peu plus... Elle est moins... Non, la loi suédoise est beaucoup plus... Elle est mieux formulée, elle est plus claire, elle est plus directe. La loi française, on a beaucoup bataillé pour avoir des termes qu'on n'a jamais eu dedans.
Ok, tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus. Mais du coup, en France, depuis le 10 juillet 2019, on a aussi une loi contre les violences éducatives, contre les violences envers les enfants, en fait, on pourrait dire, pour simplifier les choses. Et je me demandais si... Alors, en France, ça passe complètement inaperçu, cet anniversaire. Je me demandais si en Suède, c'était quelque chose que les gens célébraient d'une manière ou d'une autre, ou enfin, célébraient, j'imagine qu'ils ne font pas des feux d'artifice, mais si les gens ont conscience, en fait, de cet anniversaire, ou si c'est réservé à vraiment un petit pourcentage de personnes informées et militantes du sujet.
Non. Les gens n'ont absolument pas conscience. J'ai pas trouvé de Suédois qui... Non, c'est moi qui, chaque année, leur dis « Nous sommes le 1er juillet. » Non, ils s'en rappellent pas. Ils se rappellent
Okay.
ni... Enfin, voilà, ils se rappellent pas de la date exacte. Ils se rappellent que c'était dans les années 70. Mais c'est tellement acquis qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fête, quoi.
Ok, c'est super intéressant parce que c'est vrai que nous, on peut avoir tendance peut-être, enfin moi, je vais parler pour moi, à fétichiser un peu notre regard sur la Suède, là, comme si ouah, tout le monde était conscient, en fait, de manière, vous pouvez noter la date, etc. Mais du coup, non, puis ça nous permettra de revenir peut-être sur aussi une notion à laquelle je pense là, du coup. Bon bref, je vais essayer de pas m'éparpiller. Donc... Est-ce que tu veux nous dire, peut-être justement, ça peut être intéressant Pour commencer, de voir s'il y a des grandes différences, en tout cas toi, les différences que tu fais entre ces deux lois, justement, t'en parlais là un tout petit peu, tu l'abordais, et peut-être ça nous ouvre finalement sur quelque chose, sur les notions que toi tu abordes au quotidien.
Bah, la loi française, c'est l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. C'est pas plus clair que ça, même si après, effectivement, il y a tout un texte qui explique un peu plus ce que ça signifie, mais la loi en elle-même, c'est ça. Donc, violence physique ou psychologique, c'est quand même très vaste. On n'a pas réussi à faire inscrire très clairement punition corporelle. Il fallait rester plutôt dans le vague quand même. Donc ça, c'est plus compliqué. En Suède, la loi, elle est beaucoup plus... comment exactement? C'est les enfants doivent être traités dans le respect de leur personne et de leur individualité. Donc déjà, ça pose que nous n'avons pas dans la loi française. Et ne doivent pas être soumis à des punitions corporelles, donc c'est dit très clairement, ou toute autre forme de traitement humiliant. Donc on est beaucoup plus sur un aspect finalement où on a tout de suite compris que c'était une loi qui avait un rapport avec les violences qui était à visée éducative. Là où en France finalement, ça amène... c'est pas très clair quoi. Il y a quand même une certaine confusion, même si ensuite on était ravis de ce texte, hein, parce qu'on l'a tellement... on l'a tellement attendu. Mais ça a manqué un peu de courage dans la formulation. Et qui en fait finalement c'est expliqué après quand on a compris qu'il n'y aurait pas d'accompagnement en fait à la loi, ce qui est nécessaire. Hein. La loi, c'est la fondation, mais il faut construire dessus. Et ça a montré finalement que voilà, c'était plus comme souvent en France, une espèce de loi un peu gadget comme ça qu'on a mis, qui certes fait avancer les choses. Évidemment, c'est fondamental, mais on l'aurait voulu beaucoup plus clair, quoi.
Ouais, il y a des. C'est vrai que du coup, juste là, en t'entendant et en réfléchissant, il y a des différences majeures. Par exemple, en France, là, ça concerne que parents-enfants, alors que dans la loi suédoise, c'est vraiment l'enfant, le respect de l'enfant, en fait, ce qui pose le fait que aucun adulte, finalement, n'a le droit, de s'en prendre à un enfant, avec violence, quoi.
Bon, après, il est dans le code parental en Suède, ce qu'on n'a pas en France, hein, je crois. Donc, ça s'adresse aux parents, mais ça reste quand même effectivement pour tous les adultes. Et puis, c'est vraiment cette idée de les enfants doivent être traités dans le respect de leur personne et de leur individualité. On arrête totalement l'idée que les enfants appartiennent à leurs parents, ou comme dans la loi aussi française que nous avons toujours. Je sais plus quel est l'article, c'est juste après ou juste avant, comme quoi les enfants à tout âge doivent honneur et respect à leur père et mère. Ça va à l'encontre totale de la Convention des enfants, ça n'a rien à faire dans la loi, et ça y est encore. Là où en Suède, on ne trouve absolument aucun texte de loi qui dit que les enfants doivent quoi que ce soit à leurs parents. C'est les parents qui doivent aux enfants, et c'est tout. Et du coup, ça montre vraiment, encore une fois, qu'ils doivent être respectés dans le respect de leur personne, parce qu'ils sont des personnes à part entière, ils sont des individus, avec des droits propres, et de leur individualité. Donc ça montre aussi, finalement, qu'ils sont tous différents. Et que comme on dit tout le temps en France, ça ne marche pas avec tous les enfants. C'est pas une histoire de tel enfant ou tel enfant. Lui mérite ses droits, lui il les mérite pas. C'est une histoire que tous les enfants sont différents, mais ils doivent être respectés dans leur humanité. Voilà. Donc effectivement, la loi suédoise est beaucoup plus, oui, elle est beaucoup plus à l'image des droits de l'enfant.
T'as mentionné la Convention des droits de l'enfant. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que c'est important, je pense qu'on en parle. J'ai
Bien
retenu
sûr.
de ton livre que tu parles, enfin je crois que c'est dans ton livre hein, que je l'ai lu, que la Convention internationale des droits de l'enfant, du coup, elle repose sur les 3 P. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler plus? Je trouvais que c'était un bon moyen mnémotechnique.
Oui, on en parle. Disons qu'il n'y a, y a, y a rien dans la convention là-dessus, mais c'est comme ça qu'on en parle dans le domaine des droits de l'enfant. C'est protection, provision, participation. Donc la provision, c'est tout ce qui a finalement accès aux soins de santé. À l'instruction. La protection, bah, ça va être tout ce qui est, voilà, les enfants sont des êtres vulnérables, c'est le premier finalement pan de la convention. Ils ont une convention propre parce qu'ils sont des individus dans une position sociale et biologique particulière. La vulnérabilité, la dépendance aux adultes, ce genre de choses. Donc du coup, la protection leur est due de par ce fait qu'ils sont mineurs. Et la participation qui va ensemble avec les deux autres P, et particulièrement, parce qu'on dit les trois P, mais en fait c'est particulièrement protection, participation, qui sont tout le temps en jonglage. Et donc du coup, la participation, c'est que l'enfant est certes un individu vulnérable, et donc dépendant, et donc pas un majeur, mais un mineur à plein d'égards, mais il est aussi pleinement compétent, donc il est un sujet de participation, qui a des droits, qui a le droit, qui a son mot à dire. dont la voix doit être entendue, sinon on ne peut pas réaliser l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc on doit tout le temps mélanger, se faire se marier, bien que des fois ça soit difficile, hein, la protection d'un enfant vulnérable avec la participation d'un enfant compétent. Et c'est uniquement dans cette rencontre-là qu'on peut réussir finalement à respecter les droits de l'enfant et à, voilà, à arriver à l'intérêt supérieur de l'enfant dont tout le monde parle, mais pas grand monde sait ce que c'est.
Est-ce que ces deux pôles, ces deux polarités que tu viens de nous présenter, elles sont en lien avec ce dont tu parles souvent, qui est d'un côté la hauteur d'enfant et de l'autre côté un enfant hauteur?
Oui, on pourrait effectivement, même si la hauteur d'enfant a aussi beaucoup de... Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'enfant hauteur, c'est certain, c'est le symbole un peu de la participation, l'article 12, avec cet enfant justement voilà, qui est intelligent, qui est un sujet, qui a des choses à dire, qui a des choses à nous apprendre aussi. Et surtout, dans la recherche en droit de l'enfance qu'on dit, qui est le premier expert de l'enfance, puisqu'il est un enfant. Donc c'est pas à nous adultes finalement de chapeauter l'enfant avec notre petit paternalisme, de finalement... Parce qu'on va vouloir le protéger, de l'étouffer dans cette protection. Donc il faut sans cesse aller dans cet équilibre de à quel moment, en tant qu'adulte, je dois prendre la décision. Et parce que là, en fait, c'est aussi pour, voilà, c'est pour l'intérêt de l'enfant de ne pas aller lui mettre la responsabilité sur les épaules, parce que c'est aussi quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Mais tout en écoutant l'enfant, tout en prenant sa parole en compte, c'est vraiment c'est un jeu d'équilibriste constant. Les droits de l'enfant, c'est un domaine fascinant, mais c'est extrêmement complexe. C'est parce qu'il y a justement cette vulnérabilité biologique et structurelle qu'on ne peut pas annuler. Et puis qu'on ne veut pas annuler. Les enfants sont, voilà, ils doivent rester des enfants aussi. Mais c'est pas parce qu'ils sont des enfants qu'on doit, du coup, être dans un total contrôle sur eux non plus.
J'ai envie de te poser des questions par rapport à ce sujet-là spécifiquement que je trouve hyper intéressant, mais j'ai le sentiment qu'avant qu'on creuse un petit peu ça, et surtout qu'on identifie qu'est-ce que ça peut signifier pour nous en tant que parents aujourd'hui dans notre pays, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être poser la base de qu'est-ce que c'est justement la hauteur d'enfant, parce que peut-être c'est une notion qui nous est plus, qu'on peut peut-être plus facilement toucher du doigt et qui va nous permettre après d'aller dans la suite. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire l'impasse de ça avant de parler du reste. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que tu entends par la hauteur d'enfant?
La hauteur d'enfant, c'est vraiment un mot qui, je trouve, il y en a plusieurs, hein, mais je trouve que celui-là particulièrement, c'est une représentation de ce changement de paradigme que les Suédois ont opéré en fait ces 50 dernières années. C'est-à-dire que c'est de vouloir, d'avoir l'intention de, parce qu'en réalité dans la pratique c'est compliqué, mais d'avoir cette envie, cette intention de penser le monde, la société et tout ce qui nous entoure depuis les yeux de l'enfant. Donc c'est se mettre en fait à la place de l'enfant, enfin essayer, parce qu'encore une fois c'est beaucoup plus délicat dans la pratique, nous ne sommes pas des enfants. Donc c'est finalement de c'est une position pleine d'empathie en fait, pleine de curiosité. Qu'est-ce que l'enfant ressent? Qu'est-ce qu'il voudrait? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Enfin voilà, de toutes ces questions-là qui occupent beaucoup les adultes, tout en sachant encore une fois que nous sommes des adultes. Mais c'est quand même cette envie, voilà, cette intention, je le qualifierais d'une intention.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Moi, je pense à une situation concrète où on peut essayer de se mettre à hauteur d'enfant, mais peut-être toi, t'en aurais
Oui,
une.
par exemple, bah, oui, enfin, il y en a tellement des exemples, hein,
Un
mais je peux
exemple de la vie quotidienne, tu vois, très très basique
ouais,
pour
bah, je peux
les familles.
prendre, par exemple, un voyage dans le train. On va être dans un wagon et puis il va y avoir un enfant qui perd patience dans ce train parce que c'est pénible à son âge d'être dans un train. Enfin voilà, c'est pas passionnant quoi. Et les adultes autour vont tout de suite accuser l'enfant parce qu'il n'est pas capable, selon eux, de rester assis et finalement d'être calme. Là où en fait le problème c'est pas l'enfant, le problème c'est la situation dans laquelle on le met. De quoi ben. On est qui pour attendre d'un petit enfant qui va finalement être dans un wagon, enfin, qui va rester calme, que ça va bien se passer, faut avoir envie de jouer à la roulette russe, quoi. Concrètement, ça risque de pas bien se passer. Et là, où, si ça se passe pas bien, en France, on va avoir une tendance absolument énorme, culturellement parlant, à accuser l'enfant, à lui mettre finalement la responsabilité de cette situation sur les épaules. Là, hauteur d'enfant, c'est au contraire de dire, OK, ça marche pas, il y a un problème là, on a un enfant qui peut-être est en crise ou ce genre de choses, mais ça va être de tourner la responsabilité vers soi. Qu'est-ce que moi, en tant qu'adulte, je peux faire? pour comprendre ce qui se passe pour lui. Donc c'est finalement essayer, encore une fois, bien que ça soit difficile, de se mettre finalement dans les baskets de l'enfant, de ce qu'il peut comprendre, et finalement surtout, in fine, de pas l'accuser, quoi. De pas lui faire porter le poids de ce fiasco qui est qu'en fait, dans le wagon, devrait y avoir un coin enfant. Voilà. Donc c'est sociétal. L'enfant, finalement, il est uniquement, voilà, il s'adapte à un contexte social qui n'est pas adapté pour lui. Donc forcément, ça se passe pas bien.
Ton exemple est super intéressant, je trouve, parce que du coup, on déplace comme tu dis, la faute, la responsabilité plutôt, de l'enfant vers le contexte, la situation. Et c'est vrai que quand tu as commencé à dire, on regarde d'abord nous en quoi on peut être responsable, il y a beaucoup de parents qui trouvent cette démarche, cette façon de déporter le regard assez culpabilisante. Et j'aime ça que tu remettes en contexte aussi que c'est aussi l'environnement social total autour, enfin total, je veux dire par là, l'environnement social, quoi, qui rend la chose difficile, en fait, pour l'enfant, pour le parent et pour tous les adultes autour également.
Mais le problème en France, et ça c'est clairement un problème majeur, je pense aussi, dans notre. C'est que comme nous sommes à peu près tous des anciens enfants, soit humiliés, soit tapés, soit punis, enfin qui d'une façon ou d'une autre, en tout cas, ont été élevés dans cet autoritarisme et cette culture de la punition, nous avons un mal fou à prendre nos responsabilités. On se sent tout de suite culpabilisé. Puisque quand on était petit, c'était tout le temps, voilà, c'est ta faute, on a grandi dans cette structure sociale. Et donc forcément, quand on veut nous mettre face à nos responsabilités, ça va tout de suite nous amener une culpabilité forte et qui est très insupportable et qui va être beaucoup plus facile d'aller mettre sur les épaules de l'enfant qui, lui, de toute façon, ne peut pas bien se défendre tout seul. Donc c'est un problème social aussi, c'est que le fait aussi d'élever des enfants loin de cette culture de la punition et de cette culpabilisation et de, voilà, dans la hauteur d'enfant, ça va aussi faire des adultes qui ont un sens éthique et moral plus fort, qui prennent leurs responsabilités sans se sentir tout de suite flagellés ou remis en question dans leurs valeurs humaines, parce qu'ils ont finalement bah, voilà, une meilleure estime d'eux-mêmes, une meilleure. Enfin, encore une fois, ça fait des adultes plus sécures.
Tu parles fréquemment du filtre de la méfiance versus filtre de la confiance. Et je fais le lien avec ce que tu dis là, puisque effectivement, quand nous-mêmes, on a baigné dans cette éducation où on est puni, on nous regarde avec suspicion, ça peut être très difficile de se détacher de ça une fois qu'on devient adulte et qu'on porte à notre tour un regard sur l'enfance.
Ah bah, totalement. Le filtre de vision de l'enfant, c'est en fait un concept en fait qui explique que la manière dont nous regardons les enfants, nous en tant qu'adultes, ne dit à peu près rien des enfants. La manière dont nous regardons les enfants dit tout de nous adultes et de la société dans laquelle on évolue, de notre filtre. Et c'est là où moi j'ai trouvé, voilà, pour justement faire cette comparaison. Qu'en France, on va avoir un filtre de vision de l'enfant de la méfiance. Donc, on va à peu près automatiquement partir du principe que l'enfant est finalement le problème. Et donc, il va falloir régler ça avec différentes manières coercitives propres à notre culture. Alors qu'en Suède, le filtre de vision de l'enfant, c'est celui de la confiance. C'est-à-dire que les adultes, qui vont être justement beaucoup plus apaisés, comme on vient d'en parler, vont véritablement poser des yeux sur l'enfant qui ne sont pas des yeux accusateurs. Parce que le filtre, il est totalement différent, parce que la culture, elle est différente, parce que la vision de l'enfant et de l'enfance, elle est différente, parce qu'ils sont dans un autre cadre social. Et donc forcément, ça les impacte aussi en tant qu'individus et dans leur parentalité. Et là où je dis, voilà, là où je parle finalement de ce filtre, c'est aussi parce que c'est pas quelque chose qu'ils pensent, c'est naturel, c'est là, quoi. C'est comme ça qu'ils regardent, en fait, le monde. Et effectivement, le filtre de vision de l'enfant, de la confiance, il est nécessaire pour la hauteur d'enfant. On peut pas avoir un filtre de vision de l'enfant de la méfiance et être dans la hauteur d'enfant, c'est pas possible. C'est antinomique. Donc,
Oui, parce que
voilà.
si on essaye de comprendre ce que vit un enfant, comme là, l'exemple du train, si on commence par penser que l'enfant est juste pénible, on ne peut pas se mettre dans ses baskets, quoi.
Ah bah non, on pourra pas. Non, non, c'est sûr. Bah non, c'est la méfiance, elle va tout invalider finalement. On peut plus rien faire quand on est dans la méfiance. Mais le problème, c'est que généralement, on s'en rend même pas compte qu'on est dans la méfiance, puisque c'est tellement un regard social posé sur l'enfant, où l'enfant et l'enfance, mais l'enfant particulièrement quand même, est représenté comme un être qui veut embêter les adultes, prendre le pouvoir, nous nuire. On est dans un contexte social où on est vraiment dans une culturellement parlant, attention, je parle pas individuellement, mais culturellement parlant, on n'aime pas les enfants. On a une espèce comme ça de structure sociale qui va aller contre les enfants. On va rigoler d'eux, contre eux, entre nous adultes. De façon, voilà, on va faire des blagues, on trouve tellement finalement d'éléments sociaux et culturels partout, à tous les coins de rue. Moi, je les vois parce que je compare avec la Suède, mais je sais même pas si on les voit quand on est en France, où constamment on est contre les enfants. On crée un imaginaire collectif qui est contre l'enfant. Donc forcément, quand on va être parent et qu'on va arriver face à un enfant en crise, il est impossible de sortir de toute cette baignade finalement constante dans cet imaginaire collectif et de se dire, ah bah tiens, je vais être dans la hauteur d'enfant. Du coup, les gens, ils vont pas comprendre aussi souvent, parce que moi, c'est aussi mon petit voilà petit souci, c'est que les gens vont pas comprendre que la hauteur d'enfant, c'est pas une méthode, c'est un regard social qui du coup amène une autre posture à l'enfant, parce qu'on a une autre vision sociale et culturelle de l'enfant et de l'enfance.
Oui, en France, on a, c'est vrai, cette tendance à avoir, je l'entends d'autres, d'amis qui sont mamans d'une autre culture, par exemple, et qui me disent souvent qu'en France, on a vraiment une façon de toujours être, vouloir contrôler nos enfants, en fait, que finalement, ce que tu disais qu'en France, on n'aime pas culturellement les enfants me fait penser, c'est comme si on les aime tant qu'ils restent à leur place d'enfant qu'on a définie pour eux. Mais dès qu'ils débordent de cette place-là, ça va plus du tout et il faut les recanaliser dans cette petite boîte d'espace qui leur est désignée, quoi.
Pas comme on dit quoi, faut qu'ils soient sages comme des images. Donc d'accord, là on les aimera bien parce qu'ils sont mignons, ils ont des grands yeux, ils ont. Mais personnellement, j'appelle pas ça aimer les enfants, puisque les enfants, ça bouge, ça vit. Donc concrètement, oui, culturellement parlant, on a un vrai problème avec l'enfance, totalement.
Tu parles de culture de la punition. Et qu'est-ce qu'on peut lui opposer qui serait du coup une façon différente de voir l'enfant et d'entrer en lien avec l'enfant?
Ben, donc encore une fois, dans cette voilà, conception de différents concepts pour comparer justement ces deux visions-là, donc en France, c'est le filtre de vision de l'enfant de la méfiance qui va mener donc à la culture de la punition, puisque forcément, si on se sent attaqué en tant qu'adulte, ben, on va vouloir contre-attaquer. C'est plutôt humain finalement quand on est attaqué, on veut pas se laisser faire, on veut se défendre. Là où en Suède, le filtre de vision de l'enfant de la confiance va amener à une culture de la relation. Donc comme on va être finalement dans une vision où on regarde l'enfant avec confiance et on va essayer de se mettre à sa place et on va essayer de comprendre ce qui se passe pour lui, on va penser long terme, on va penser en fait à la relation entre l'enfant et l'adulte et non pas à l'efficacité tout de suite à court terme nécessairement dans toute situation parce qu'on veut garder le contrôle, parce qu'on se sent attaqué par l'enfant. Donc il y a d'un côté on a l'obéissance immédiate à court terme, l'enfant doit obéir parce que je dois garder le contrôle, parce que c'est mon rôle, parce que sinon il va me bouffer, enfin ce genre de choses. Et de l'autre côté on a ce qui compte, c'est le lien à long terme, c'est que quand il sera adulte, on part en vacances ensemble aussi. Enfin, c'est de créer finalement une confiance qui va pas être quelque chose forcément, bah forcément d'immédiat, parce qu'effectivement, immédiatement, l'enfant ne va pas forcément obéir, quoi. Mais on a finalement d'autres objectifs parce qu'on a une autre façon de regarder la situation. On l'interprète différemment, donc on la gère différemment.
Comme tu dis, c'est finalement des objectifs différents dans l'éducation. D'un côté, on cherche l'obéissance et finalement un respect de notre autorité. On entend souvent ça d'ailleurs, hein, il me provoque, il me pousse à bout. Et de l'autre côté, c'est cette relation long terme où en fait, l'objectif, c'est de construire quelque chose ensemble, quoi.
Oui, totalement, totalement. C'est vraiment des objectifs différents. Pour autant, ça n'enlèvera pas le fait que on pourra aussi se sentir provoqué par les enfants en Suède, hein. Il n'y a pas de les enfants qui sont souvent, voilà, dans une conception de la vie qui est souvent pas tout le temps, parce qu'il faut pas non plus les mettre complètement différents de nous. Ce sont aussi des gens compétents et des gens sérieux, mais il y a quand même ce côté où ils pensent souvent différemment de nous, quand même. Ou alors on pense différemment d'eux. On peut aussi le mettre dans ce sens-là. Mais donc du coup, souvent, on va pas se comprendre. Forcément, on va vouloir quelque chose, ils vont vouloir autre chose, donc on va se sentir provoqué. C'est normal, ça fait partie finalement de cette asymétrie de pouvoir entre l'enfant et l'adulte, c'est presque inhérent à la relation. On va se sentir provoqué. Mais en fonction du filtre, on va pas le vivre de la même manière. Et on va pas le faire porter à l'enfant de la même manière.
J'ai envie de rebondir sur cette notion d'autorité, de pouvoir. Je t'avais entendu dire, alors je sais plus honnêtement si c'est dans ton livre ou ou dans l'une de tes interventions, ou éventuellement même sur tes réseaux sociaux, mais tu parlais à un moment et j'avais trouvé ça hyper intéressant que une fois qu'on commence à entrer dans ces concepts, dans cette vision différente de l'enfant, de celle qui est la plus véhiculée dans notre société, on se met à avoir l'envie de renverser un peu ce pouvoir qu'on peut avoir, ou en tout cas de l'aplanir. Et je t'entendais dire que c'est pas possible et c'est pas forcément souhaitable non plus. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus? Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une grande confusion et t'es l'une des premières personnes que j'ai entendu l'exprimer de manière très, enfin, en fait, en t'entendant parler, je me disais, ah, oui, ça explique ça, je touche du doigt quelque chose que j'avais du mal à formuler, à ressentir, enfin, voilà, je serais vraiment heureuse de t'entendre parler de ça.
Oui, bah encore une fois, oui, c'est totalement cette idée. Oui, c'est une confusion énorme en France, et oui, elle est littéralement partout. Que finalement, l'enfant, bah dans ces cas-là, c'est pas très compliqué. On enlève toute cette vision autoritaire, et l'enfant est mon égal. Et finalement, voilà, on nous sommes arrivés à destination, et on est bien, tout est acquis. Non, absolument pas. C'est absolument pas ça, les droits de l'enfant. Enfin, c'est tellement plus complexe que ça. L'enfant, encore une fois, par définition autant structurelle que biologique, il est dépendant de nous. Il a besoin de nous pour grandir et il est sous notre garde en plus. Donc au niveau de la loi, il n'a pas les mêmes. Voilà, enfin, il y a un statut quand même au niveau. Même si certains veulent l'abolir. Mais enfin, ça va, bon, c'est une autre question. Mais il est important qu'un enfant puisse rester un enfant aussi. Donc encore une fois, il y a ce jeu d'équilibriste. Mais la vraie question. C'est qu'est-ce que je vais faire de mon pouvoir en tant qu'adulte? Est-ce que mon pouvoir, ça va être de dire j'ai l'autorité, donc je décide, donc s'il ne m'obéit pas, j'ai le droit de le punir, j'ai le droit de, voilà, ce genre de choses qu'on fait souvent en France, ou au contraire, comme on le pense en Suède, j'ai le pouvoir, donc j'ai la responsabilité de la relation avec cet enfant, donc il est de mon devoir de créer une horizontalité dans la relation. Pour justement fragiliser cette asymétrie de pouvoir qui ne permet pas à l'enfant d'être pleinement, finalement, dans son droit de participer, de donner voilà, son avis sur les choses. Finalement, l'enfant, il n'a que les droits qu'on respecte, concrètement, dans cette vulnérabilité. Et il est en fait pleinement hypocrite de vouloir, de penser ou de vouloir faire croire qu'on peut juste supprimer ça. On ne peut pas, en fait. On n'a qu'à regarder enfin, les chiffres, les statistiques. Les enfants sont les plus victimes de violences sexuelles en France, bien avant les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulnérables au possible. Les enfants sont les plus. Enfin, les bébés, c'est terrible à dire, mais les nourrissons, entre 0 et 1 an, sont les plus tués. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement vulnérables. Et c'est vrai que ça, c'est terrible de dire ça, parce que ça touche à quelque chose, on se dit, mais on est des monstres. Non, mais bon, on est voilà, la nature humaine, elle a de tout, on va dire. Et il faut pas en fait nier cet aspect de pouvoir qui est central à la fois dans la relation adulte-enfant et dans nos pratiques humaines. C'est super important de parler du pouvoir si on veut pouvoir parler d'inclusion, si on veut pouvoir parler justement des minorités diverses et variées, notamment des enfants qui en font partie. Et particulièrement dans la relation adulte-enfant, ce pouvoir-là, on ne pourra pas l'annuler. Là où on cherche à l'annuler pour rendre le pouvoir aux femmes, par exemple, voilà, c'est pas la même, c'est pas la même, c'est pas le même, c'est à la fois des sujets qui se ressemblent beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et une des différences, c'est que le pouvoir, il est inhérent à notre rôle d'adulte et on ne peut pas s'en débarrasser. Il faut au contraire vraiment le conscientiser pour ensuite vraiment pouvoir en prendre soin et pas en faire n'importe quoi.
Ça ouvre à beaucoup d'introspection, je trouve, tout ça, parce que c'est assez vertigineux de se dire ce pouvoir-là, en fait, il va rester tel qu'il est. Enfin, en tout cas, il va rester dans ce déséquilibre, finalement, jusqu'à ce que mon enfant devienne adulte, quelque part.
Ah mais totalement. Et j'ai presque envie de dire, même un peu après, parce qu'il y a toujours quand même cette. Enfin, c'est toujours, voilà, la relation aux parents, elle est particulière, quoi. Enfin, les enfants ont toujours à voir, enfin, pas toujours, mais globalement quand même, si, besoin de leurs parents, et s'ils prennent leur distance, généralement, ça sera pas sans souffrance, quoi. Donc c'est de toute façon une relation qui est hyper particulière. Mais moi, je vois beaucoup trop dans le milieu cette espèce comme ça d'idée qui, pour le coup, est vraiment un romantisme, hein, vraiment de la situation, on va se dire, on est tous au même niveau, il n'y a pas de souci. Non, parce que le grand risque aussi, si on fait ça, c'est qu'on va parentifier les enfants. Et parentifier les enfants, c'est une des pires choses qu'on peut leur faire. C'est une des pires violences, c'est quelque chose ensuite dont on ne se remet pas quand on est adulte. Et parentifier l'enfant, ça va être finalement de le mettre dans un rôle où, parce qu'on va être complètement au même niveau, l'enfant va même pouvoir finalement devenir un ami, finalement. Et peut-être même, souvent, ça peut arriver très souvent dans des contextes où les adultes sont justement immatures émotionnellement parce qu'ils ont vécu des choses difficiles enfant, où l'enfant va prendre soin de son parent. L'enfant va devenir un peu finalement le parent du parent. Et ça, c'est aussi très difficile parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est central aussi si on veut abroger toute différence finalement de statut. Et ça, c'est vraiment on peut pas faire ça. Ça fait pas des enfants sécures, ça fait des adultes qui ont ensuite de gros problèmes de relations avec eux-mêmes et avec les autres. Donc il y a vraiment, voilà, il y a des notions qu'il faut reprendre.
Oui, parce que là, on perd du coup ce pilier dont tu nous parlais dès le départ, qui est celui de la protection, en fait, et de ce rapport quand même de protection qu'on a en tant qu'adulte envers les
Ah
enfants.
oui, et puis l'attachement. L'attachement, par définition, je m'attache à quelqu'un de plus fort que moi, qui peut me protéger, qui va être finalement un peu mon roc, quoi. Bah, je fais comment si mon roc, c'est pas un roc, enfin, c'est très compliqué. Si finalement je dois aussi prendre soin de mon parent, c'est pas comme ça. On n'est pas fait pour ça, les êtres humains. Donc évidemment que c'est hyper contenant et sécurisant dans ce monde infini et extrêmement. Voilà, enfin, qui pour un enfant, mais pour un adulte aussi, finalement, est tellement pluriel, terrorisant aussi dans certains aspects. Et on a besoin, finalement, d'avoir quelqu'un qui nous contient, de se sentir justement sécure, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a quelque chose, finalement, qui nous voilà, qui nous. C'est là que je vais dire un mot qui va pas sonner bien en français, qui sonne beaucoup mieux en suédois, mais c'est là où on va avoir besoin d'être limité, justement, parce qu'on aura justement ce cadre qui va nous permettre de grandir dans une structure cohérente. C'est ça les limites, c'est ça le cadre, hein. C'est pas plus que ça. On en a fait toute autre chose en France, mais c'est finalement de donner des bordures à un monde infini que l'enfant peut pas gérer tout seul.
Oui, tu faisais référence à la théorie de l'attachement. En parlant d'attachement, je le resitue dans son petit contexte pour que les gens puissent s'y référer et comprendre de quoi tu parles, même si je pense que c'était clair par ailleurs par la suite. Je trouvais hyper intéressant que tu poses ce terme de limite qui effectivement est toujours un peu à double tranchant quand on parle d'éducation et d'éducation dans le respect des enfants et du coup dans ce qu'on appelle en France, et je sais que c'est quelque chose sur lequel tu travailles et tu pas et dont tu parles beaucoup, c'est souvent un reproche qui est fait à l'éducation dite bienveillante de ne pas, comment dire, souvent on va venir lui opposer, oui, mais faut quand même qu'il y ait des limites, il y a quand même des limites. L'enfant ne peut pas tout faire, etc. Et ça me permet de rebondir sur une image que j'ai beaucoup aimée dans ton livre, qui est la commode de la culture, et justement dans laquelle tu parles de cette éducation bienveillante qu'on a en France. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ou beaucoup de mots?
Ouais, parce que quelques mots là, c'est cette idée finalement que en France, on a, comme tu l'as dit, l'éducation dite positive bienveillante comme une catégorie. Voilà, c'est une éducation. À côté, généralement, on y oppose l'éducation traditionnelle, comme on dit, qui va être l'éducation beaucoup plus coercitive. Donc, on a l'éducation alternative et l'éducation traditionnelle. La commode de la culture, c'est l'idée que finalement, cette éducation positive bienveillante, elle se trouve dans un tiroir de notre commode de la culture en France. Et ce tiroir, dans le livre, bon, il est rouge. Et quand on est parent et que ou adulte ou professionnel ou voilà qu'on est en contact avec des enfants, on va finalement aller trifouiller un peu dans ce tiroir pour chercher finalement bah, comment éduquer nos enfants sans violence, quoi. Enfin, tout ce dont on parle de plus en plus. Et on va trouver ça extrêmement exténuant. On va se dire, là, ça marche pas. ça marche pas avec tous les enfants, j'ai essayé, mais ça n'a pas été d'une résultat escompté, donc je retourne à l'éducation traditionnelle, ce genre de choses. Mais finalement, encore une fois, on marginalise totalement cette approche. Alors que dans la commode de la culture suédoise, il n'y a pas de tiroir rouge de l'éducation dite bienveillante. C'est toute la commode qui a en fait un fond rouge, finalement qui est la couleur de la hauteur d'enfant, hein, comme je disais dans le livre, il me semble. Et ça veut dire donc que les autres tiroirs aussi sont rouges de l'extérieur. Les autres tiroirs, c'est quoi? Bah, ça va être justement le wagon dans le train, quand on se déplace en train. Ça va être la culture, ça va être peut-être les films, ça va être les livres. Ça va être l'espace public, tout ce qui a finalement attrait à notre culture et qui nous entoure, et qui finalement voilà est aussi dans, bah, dans les deux commodes des deux pays. Mais du coup, ça veut dire que comme on badigeonne la culture suédoise de peinture rouge partout, la hauteur d'enfant, elle est partout. Encore une fois, elle est dans le cadre social. Donc il n'y a pas d'idée de éducation marginalisée, alternative. Ça n'est, c'est, voilà, c'est pas, il n'y a pas lieu d'être en fait. La hauteur d'enfant et le respect de l'enfant est inhérent à la culture. Elle est partout, elle est encore dans l'imaginaire collectif, encore une fois. Et du coup, bah, ça crée encore une fois ce naturel, cette inconscience finalement de ça en Suède, quoi. Là où en France, les gens s'arrachent les cheveux pour aller finalement dans ce petit tiroir pour trouver des solutions, mais à côté, tous les autres tiroirs, ils sont anti-enfants, si je peux le résumer comme ça. C'est-à-dire qu'on va regarder un film, on va voir qu'on accuse les enfants. On va lire un livre pour enfants, ça va être hyper coercitif, pas toujours évidemment, mais souvent dans la façon voilà, de parler aux enfants dans le livre pour les enfants. On va aller dans l'espace public, on va sentir que l'enfant dérange. Dans le train, on va voir les regards des gens sur l'enfant. Enfin, on ne peut pas en fait tout seul dans son petit tiroir rouge aller créer finalement tout un nouveau milieu pour l'enfant. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on va faire en France? On va dire... Ça marche pas. Voilà. Donc on va dire, bah forcément, c'est la faute de l'éducation dite positive, bienveillante, et puis des enfants aussi, parce que généralement, ça, on va accuser des enfants. Là où c'est absolument pas la faute des enfants, c'est la faute de la structure sociale qui est complètement à l'envers.
Je vais te poser une question qui est probablement difficile et à laquelle il n'y a probablement pas de réponse exhaustive. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en France en tant que parent, en tant que professionnel, en tant que adulte concerné par ce sujet-là pour justement peindre notre commode en rouge? Chacun, tu vois, est-ce que selon toi, il y a une piste privilégiée pour faire bouger les choses?
Alors, peindre la commode en rouge, ça se fait pas tout seul. Hein. C'est, encore une fois, c'est social, et je pense qu'il faut enlever ce poids aussi des épaules individuelles des gens qui peuvent pas, dans un cadre social comme il est actuellement, être pleinement, comme on me dit, comme les Suédois. Hein. Je reçois tellement des messages quotidiennement des gens qui se flagellent parce qu'ils sont pas comme les Suédois, quand je poste des fois des petites vidéos où on voit les Suédois avec leurs enfants. Eh, mais les Suédois, ils ont tout un cadre social hein, qui les rend comme ça. Faut pas penser qu'ils sont supérieurs, hein. C'est finalement ils sont finalement une matérialisation de ce cadre social et ils le savent même pas eux-mêmes généralement. Donc faut aussi, moi je pense la première étape, je le dis aussi, il me semble dans le livre, oui je le dis forcément, c'est de contextualiser ça, c'est de comprendre justement cet aspect culturel dont on ne parle pas en France, qui est de dire tout ça là, tout ce que je suis, ma façon d'agir, ma façon de regarder mes enfants, ma façon, ça n'est pas moi. C'est la société dans laquelle je vis, dans laquelle j'évolue, dans laquelle j'ai grandi, qui m'a imprégnée de ça. Donc c'est de se donner aussi de l'indulgence. Vraiment de se dire, je pourrais pas pleinement, à 100%, être comme les Suédois. C'est complètement... On peut pas mettre ça sur les épaules des seuls parents. C'est pas possible. C'est, encore une fois, c'est au pouvoir, au gouvernement et ces gens-là, de prendre ses responsabilités vis-à-vis des individus. Et comme le pouvoir ne le fait pas, comme le pouvoir préfère accuser les parents ou les enfants généralement, mais les parents aussi quand même, encore une fois, voilà, on est encore une fois dans une sale définition de la responsabilité du pouvoir, tu vois. Donc c'est très important, je pense, en tant qu'adulte, de se conscientiser et de se marteler cet aspect culturel pour effectivement ne pas tomber dans une détestation de soi. Que je comprends, hein, parce que je la vis moi-même, hein, en étant en Suède, quand je vois comment les gens sont avec leurs enfants, quand je parle avec, voilà, enfin, et que je vois bien que moi, bien que je fais tout ce que je fais, je suis française. J'ai grandi en France. Si je pense comme ça, là, à des films sur l'enfance en France, j'ai 50 films qui me viennent en tête. Enfin, j'ai grandi dans ce contexte social-culturel où j'allumais la télé, je voyais une gifle. Tu vois? Non, mais c'est ça aussi. On a grandi là-dedans. On a grandi dans ces films sur l'enfance où les enfants se prenaient des gifles à tour de rôle. C'était encore le cas il y a 10 ans, quoi. Maintenant, un peu moins, mais bon, ça y est encore beaucoup, mais pas systématiquement. On a grandi dans un contexte culturel où on a lu des bouquins comme Les Malheurs de Sophie, Poil de Carotte, L'Enfant de Jules Vallès. Peut-être on était peut-être un peu plus vieux parce que c'est quand même pas un livre pour enfants, mais on les a pas lus en apprenant que c'était des livres sur la maltraitance des enfants. On les a lus en apprenant que c'était des livres sur les enfants qui désobéissent et qui sont punis, alors qu'à la base, pas du tout. Ce sont des livres qui ont été écrits par des gens qui militaient contre la violence faite aux enfants. Mais on ne nous les a pas servis comme ça en France, puisque le contexte culturel ne l'a pas permis. Donc on est dans un contexte culturel qui vraiment est encore une fois anti-enfant, et on ne peut pas finalement, nous, tout seuls dans notre coin, être voilà, dans une compétence fantasmagorique avec les enfants, dans la hauteur d'enfant. C'est pas possible, même si évidemment après ça aide, si on a eu une enfance nous-mêmes voilà, non violente, ça peut aider, mais c'est quand même pas comparable en fait. À ce que peut porter la structure sociale. Ça n'a rien à voir. Donc pour moi, c'est vraiment se conscientiser sur ça, vraiment, en prendre conscience réellement de ce filtre de vision de l'enfant de la méfiance qui est à tous les coins de rue en France, en permanence, on est baigné dedans tout le temps. Et une fois qu'on l'a conscientisé, de s'amener aussi de l'indulgence. Parce que sinon, on ne pourra pas en amener non plus aux enfants. Faut aussi se regarder avec une certaine confiance, sinon ça peut pas matcher.
C'est super intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a la voie en tant que parent que tu dessines là, et puis peut-être aussi, tu l'as évoqué, peut-être aussi un engagement plus politique finalement vers lequel aller si c'est quelque chose qui nous voilà qui nous tient à cœur, qu'on a envie aussi de pouvoir transformer à un autre niveau pour que ce soit peut-être plus facile pour les futures générations de parents justement en France. Mais
Mais
bon.
c'est un sujet pleinement systémique. Enfin, moi, encore une fois, hein, les diplômes que j'ai en Suède, je n'ai étudié ce sujet-là que sous un angle systémique. J'ai pas fait d'études de psycho, ça m'intéresse pas en plus. On peut parler de l'enfance sous un angle psychologique, et il en faut, hein, des psychologues du développement qui nous expliquent comment fonctionnent les enfants, tout ça, c'est très important. Mais en France, on est dans un contexte social où on n'a même pas aujourd'hui, en 2024, d'études qui permettent d'étudier l'enfance sous un aspect systémique. Donc on n'a pas de gens qui sont, comme on peut en avoir partout en Suède, des gens qui sont des chercheurs sur ces sujets-là et qui ne regardent l'enfance finalement que dans un aspect culturel, social, systémique. Donc forcément, on ne peut pas avoir cette parole-là qui est propagée. C'est pas possible, puisqu'on n'a pas finalement on n'a pas les justes compétences.
Dans
Tu
une
vois?
discussion, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé un peu.
Non, mais donc du coup, on psychologise constamment l'enfance, le parent. Donc, si on psychologise, on individualise nécessairement. Mais le problème, c'est que on oublie tout le pan qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, l'enfance, c'est politique. Pleinement. Alors, à l'enfance, il n'y a pas plus politique que l'enfance, quoi. On le voit bien en plus en ce moment. Donc c'est vraiment tout un sujet qui devrait être au contraire extrêmement voilà, repris par tous les milieux justement militants, par le féminisme, par... Et finalement, en France, on voit que c'est pas le cas. C'est même plutôt l'inverse. Dans les milieux féministes, on voit qu'il y a aussi une grande... Il y a un grand mépris des enfants, parce que les enfants sont vus justement comme les éléments perturbateurs qui vont empêcher les femmes de se libérer. Mais c'est pas la faute des enfants, c'est la faute du cadre social qui ne permet pas, comme en Suède, d'avoir un congé parental de 480 jours et qui permet effectivement d'avoir une égalité au niveau du taux d'emploi des hommes et des femmes. C'est pas les enfants le problème. Le problème, c'est le cadre social qui ne permet pas d'agir pour les enfants et finalement avec eux. Enfin, encore une fois, on déplace constamment le sujet, quoi.
Dans nos discussions en off, on parlait du fait, enfin, Je sais plus comment on en était venu à parler de ça spécifiquement, mais et là tu l'as abordé un petit peu, mais je trouve ça tellement intéressant que j'ai envie d'aller un petit peu plus spécifier ça. Tu parlais du fait que finalement en France, et c'est ce que tu viens de dire à nouveau, on a une vision toujours autour de la parentalité pour essayer de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant, pour son développement, dans une vision un petit peu de performative finalement de notre parentalité et de l'éducation de nos enfants. Et j'avais trouvé ça super intéressant quand en off tu me disais en fait cette question elle pourrait être mise de côté presque pour revenir aux droits de l'enfant, en tout cas si j'ai bien compris ce que tu disais, puis justement tu vas peut-être le reclarifier, parce que finalement c'est deux sujets vraiment différents et juste au regard des droits de l'enfant, on devrait pouvoir définir des pratiques non violentes dans notre parentalité. Je le dis mal, mais tu vas reformuler tout ça très bien.
Non, non, tu le dis pas mal. Non, mais en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on a deux visions de l'enfant et de l'enfance qui sont très opposées. C'est-à-dire qu'en France, on va avoir effectivement tout un milieu alternatif, hein, et qui va vouloir du coup aller contre cette coercition, cette culture de la punition, qui va du coup essayer de sortir de ça. Et comment on va sortir de ça dans une vision de l'enfant et de l'enfance comme on a en France? Ça va être énormément de dire, mais l'enfant est un être immature. Voilà, le cerveau de l'enfant est immature, ce qui est un fait, hein, je ne le nie pas. Mais du coup, on va énormément appuyer sur l'idée que l'enfant ne comprend pas. L'enfant ne comprend pas la négation, l'enfant ne comprend pas le non, l'enfant ne comprend pas si, il est trop jeune pour ça, il est trop petit, il est trop. Donc en gros, on va dire aux gens, il n'est pas fini, donc sois sympa avec lui. En gros, hein, je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Là où en Suède, on n'est pas du tout là-dedans. Évidemment que l'enfant est vulnérable, il a un cerveau en construction, bon ça fait partie voilà du paysage, mais ça va être surtout cette idée que l'enfant il est compétent, il a des droits, c'est un être humain, je lui dois le respect. Et donc on va complètement en fait, parce que la vision de l'enfant et de l'enfance est très, très très différente en Suède, on va accentuer cette image de l'enfant intelligent, de l'enfant finalement un peu futé, presque des fois plus intelligent que les adultes, tu vois, pour justement amener cette idée de l'individu, encore une fois, à part entière, qui en fait est comme nous, mais plus petit, en gros, au niveau de sa dignité, hein. Et ça, finalement, ça crée un contexte totalement différent, où c'est vrai que moi, en France, ça me pose question quand je vois, en fait, que le seul argument qu'on a, c'est que l'enfant n'a pas compris. Alors que, bien sûr que si, des fois, les enfants, et je le dis vraiment, ils comprennent très bien. Bien sûr qu'un enfant comprend le non, mais des fois ils n'ont pas envie, parce que des fois c'est pénible d'entendre non. Moi, des fois quand on me dit non, j'ai pas spécialement envie d'entendre non, quoi. Donc l'enfant il va forcément aller contre ce non. C'est normal. Donc il va nous provoquer. C'est normal. Il n'a pas le pouvoir. Il veut le récupérer. Et c'est normal aussi. Il n'y a pas de problème, encore une fois, il faut dédiaboliser tout ça. Évidemment qu'un enfant qui est en situation où il est dans une relation où il est dépendant de la personne et il a finalement son autonomie qui est mise à mal. Il va vouloir la récupérer, cette autonomie. Mais c'est très bien. C'est normal, ça fait partie du jeu de la démocratie, en fait. Il ne faut pas tout de suite se sentir remis en question dans son statut d'adulte parce que l'enfant, justement, veut un peu de ce pouvoir. Il a bien raison de le vouloir. Donc c'est vraiment, encore une fois, toute une reformulation. Il faut reformuler, en fait, complètement tout le discours social de l'enfance si on veut pouvoir toucher du doigt le paradigme des droits de l'enfant.
Et là, on revient à cette notion sur laquelle on s'était dit qu'on reviendrait de l'enfant auteur, où justement, c'est ce que tu décris là, si je comprends bien, c'est permettre à l'enfant enfin, accepter que l'enfant a un potentiel, enfin, plus qu'un potentiel, a ses compétences, comme tu disais, et qu'il est en mesure de s'opposer à nous et que c'est positif, quoi. Ça peut l'être, en tout cas, ça
À
dépend
l'enfant
sur quel
auteur.
sujet, mais.
C'est vraiment, oui, parce que des fois c'est pénible aussi l'opposition, hein. Ça fait pas partie non plus, on peut le dire aussi, hein. Ça fait aussi partie du jeu. Celui qui, voilà, qui vit l'opposition, ça peut être aussi quelque chose de challengeant, quoi. Mais encore une fois, c'est pas des notions qui sont interdites à dire, quoi, que c'est challengeant, que c'est difficile, que c'est provocant, que ça veut pas dire tout de suite c'est violent, tu vois. Mais l'enfant auteur, c'est vraiment l'idée matérialisée que l'enfant est le premier expert de l'enfance. Si j'ai une question sur l'enfance, la première personne à qui je devrais demander, c'est à l'enfant, finalement. On parle énormément d'enfance, on parle énormément d'enfants, on parle énormément du cerveau immature de l'enfant, mais on ne leur pose pas tellement la question à eux. Parce que si tu demandes à un enfant, quand il va te dire oui, alors moi, quand j'étais petit, un enfant de 7-8 ans, il va parler comme ça. Un enfant de 3 ans, il va dire ah, moi, quand j'étais petit, ils ne se sentent pas petits. Ils se sentent déjà grands, ils se sentent compétents, voilà, et ils comprennent pas aussi que nous, en face, on est constamment finalement en train de ne pas respecter en fait cette intelligence qui est la leur, cette compétence qui est la leur. Sur tant de sujets, ils sont même des fois bien plus compétents que nous. Où finalement on est pas ce qu'on veut bien faire et pas ce qu'on veut faire appel à la protection de l'adulte, on va bêtifier l'enfant, quoi, tu vois. Et après, on a des gens qui vont nous dire, ah, mais c'est pas vrai, l'enfant, il peut très bien manipuler des fois parce que donc l'éducation positive, c'est n'importe quoi, tu vois, parce que finalement ça tient tellement sur des fondations extrêmement friables de juste bêtifier l'enfant, puisque l'enfant n'est pas bête du tout, que effectivement il y a plein de gens qui vont s'engouffrer dans les brèches, puisqu'on ne parle pas de la vraie question qui est celle de l'enfant, être humain à qui je dois le respect. C'est un tout autre sujet, c'est un tout autre aspect de la question.
Est-ce que, enfin, ouais, ça me fait penser au fait que souvent, d'ailleurs, si on utilise, enfin, si on renverse des situations en les présentant sous le format de qu'est-ce que ça donnerait dans une relation adulte-adulte, alors c'est pas toujours quelque chose qu'on peut faire parce qu'effectivement, il y a cette notion de protection qu'on n'a pas normalement envers d'autres adultes, mais on se rend bien compte qu'en fait, on se permettrait jamais de faire ce qu'on fait aux enfants à des adultes, quoi. Finalement, dans une relation où on n'est pas d'accord avec quelqu'un, avec un autre adulte, on va pas le punir dans sa chambre en lui disant va réfléchir à ce que tu viens de me dire, par exemple. On va trouver une
Non,
autre façon
je
de.
conseille pas. Je conseille pas de le faire, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, parce qu'encore une fois, c'est cette idée, voilà, cette malformation de notre filtre qui fait qu'on interprète les choses avec méfiance. Donc forcément, c'est pleinement humain. Hein. Si on se sent attaqué, si on se sent en danger dans notre position, on va forcément faire preuve de notre pouvoir pour écraser l'autre. C'est comme ça qu'on utilise le pouvoir, les humains, quand on se sent attaqué, hein.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis ça, c'est effectivement propre à tous les humains, je crois. Hein.
Je crois aussi. Bref.
J'ai une dernière question pour toi, Marion. Je sais que ça fait des années que tu travailles sur ces sujets-là. Je ne sais pas combien d'années exactement, mais je sais que ça fait des années. Est-ce que tu vois une évolution quand même, une évolution qui irait dans le bon sens, peut-être des choses qui viennent complexifier tout ça? On a parlé de l'éducation positive qui a ses bons côtés, ses moins bons côtés. Est-ce que quand même tu te sens plutôt optimiste face à l'évolution des choses? Ou est-ce que vraiment c'est beaucoup, beaucoup trop lent et il faut qu'on se réveille d'une certaine manière?
Alors oui, c'est beaucoup trop lent, ça c'est sûr. Mais oui, je suis optimiste. Oui, je vois une différence. Enfin, moi, effectivement, ça fait bien 20 ans que je suis sur le sujet, donc il y a clairement des différences. C'est vrai que tout à l'époque, où moi-même j'étais encore une enfant, c'était un sujet qui n'existait pas dans la société. On n'en parlait pas, personne ne savait c'était vraiment un sujet inexistant. Après, c'est devenu un sujet existant, mais dont personne ne se souciait finalement. C'était, oui, bon. Ils sont un peu pénibles, enfin voilà. Maintenant, on est plus dans une ambiance sociale où c'est vu comme une menace. Mais donc, si c'est vu comme une menace, c'est aussi que ça prend de l'ampleur. Sinon, ça serait pas descendu comme c'est descendu comme ça par les médias et par tout le cadre social, comme ça l'est depuis quelques années maintenant. Donc oui, il y a un avancement. Pour autant, moi, je reste persuadée qu'il faut aussi les droits de l'enfant et toutes ces questions-là, ça mérite et ça demande de la rigueur. Ça demande voilà, des compétences qu'on n'a pas vraiment en France, en réalité. Et je pense que c'est important que le sujet soit abordé dans toute sa complexité et qu'on n'en fasse pas juste finalement une histoire de parentalité positive, encore une fois, avec encore une fois ce milieu alternatif qui certes grossit, mais qui reste un milieu alternatif. Et puis finalement, tout le cadre social derrière, qui soit se moque, soit se sent attaqué, soit les deux, mais finalement, où il n'y a pas de. Les droits de l'enfant ne rentrent pas dans le cadre social. À aucun moment, il y a cette rencontre. On reste dans le milieu alternatif. Et il y a même des gens de ce milieu alternatif qui veulent être dans des milieux alternatifs. Il y a vraiment cette idée de nous ne sommes pas comme le système. Donc il y a aussi toute cette histoire, voilà, de. Est-ce que c'est une histoire d'être contre le système, ou est-ce que c'est une histoire que le système faut le changer? Comment le changer? Enfin bon, c'est très complexe. Mais en tout cas, moi, ce que je veux, et c'est pour ça aussi que je reviens en France avec ces choses-là, sinon je serais restée en Suède, clairement, c'est que je veux faire bouger le cadre social. Je veux parler de cette question-là, avec mes compétences qui sont propres justement à ce que j'ai pu étudier en Suède, sous tout un aspect systémique, social, et où je me suis quand même vraiment énormément focalisée sur toutes ces années où j'ai bossé ces sujets-là en Suède, à tout le temps ramener ça à la France. C'est-à-dire que oui, il y a toutes ces compétences-là en Suède, mais il n'y a pas cette interculturalité, si je puis dire, que moi j'ai vraiment ramené, parce que si je prends juste le sujet comme on le pense, voilà, et qu'on le traite en Suède, que je ramène en France, ça ne matche pas. On n'est pas dans la même culture. Donc moi, je me suis vraiment appliquée avec justement voilà, les termes comparatifs. Le filtre de la méfiance, le filtre de la confiance, la culture de la punition, la culture de la relation, et finalement de toujours penser et étudier ces sujets-là en ayant la France toujours derrière en toile de fond pour que ça puisse profiter à la France. Donc même les Suédois hein, trouvent, enfin j'ai des discussions passionnantes avec eux parce que même eux ils l'ont pas vu sous ces angles-là comme ça quoi, puisqu'ils connaissent pas le cadre social français. Pour eux leur norme, eh ben, c'est la non-violence. Donc il y a vraiment encore une fois ce mélange entre les droits de l'enfant et tout ce qui est justement les sciences de l'enfance, l'aspect culturel, les représentations, les normes, parce que c'est ça en fait qui va permettre de soulever le sujet sous cet angle-là en France. Donc moi ma particularité c'est ça.
Merci Marion, c'était vraiment passionnant. Où est-ce qu'on peut te découvrir ou approfondir avec toi prochainement pour les personnes qui nous écoutent? Il y a ton livre, bien sûr, Une enfance
Ouais
en
bah
or.
le livre. Et puis Instagram beaucoup. Ouais.
On te retrouve à ton nom, Marion Quercq.
C'est ça.
Super. Je mettrai aussi tout dans les notes de podcast avec des références à tout ça. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps. C'était vraiment passionnant. On pourrait faire encore 1 heure, je pense, d'échange, mais on va s'arrêter là.
Merci à toi.
À bientôt, Marion.
À bientôt.
Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci encore, Marion, pour ton temps et pour ce bel échange. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez aussi retrouver les notes du podcast sur le site christellecardeur.com, Christelle avec un K, ainsi qu'un petit guide gratuit de 20 pages pour accompagner la colère de nos enfants et la nôtre sans violence. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux. Ciao!